Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, la radio des bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Nous consacrons une seconde émission à Frédéric Chopin. Dans notre précédente émission, nous avons évoqué le Chopin aristocrate de la musique, la beauté du chant de ses compositions, un bel canto pianistique, son côté très, très français. Et puis, aujourd'hui, nous évoquons la personnalité de Chopin au travers du drame qu'il a vécu toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, puisque exilé de la Pologne, il a toujours eu la nostalgie, bien sûr, de sa patrie, de son pays, des amis et de la famille qu'il y a laissé. C'est le Chopin quelque peu nostalgique, on pourrait dire dépressif. Et puis il y a le Chopin exalté, patriote et révolutionnaire véritablement. Petit rappel historique, en 1725, le duché de Lorraine devient par le mariage de Louis XV avec une princesse polonaise rattachée à la France. En 1795, ce royaume disparaît et il est dépecé par un partage entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Les guerres napoléoniennes, notamment à partir de 1807, vont rétablir le duché de Varsovie. Et puis, ce sera pour peu de temps, puisque après la retraite de Russie des troupes napoléoniennes, les Russes vont envahir la Pologne en 1813. Et elle disparaît par le Congrès de Vienne, et de nouveau, elle est dépecée, partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. 1830, insurrection des patriotes polonais, répression bien entendu par les Russes. C'est le moment où Chopin vient en France. Il n'est pas véritablement exilé politique, mais à la suite de certain nombre de concerts, il se dirige vers Paris, qui est une capitale musicale et culturelle, non seulement européenne, mais mondiale. Donc, son œuvre, à partir de sous cet angle-là, devient bipolaire quelque part, la nostalgie, la tristesse, la dépression et la révolte. Schumann va caractériser cet aspect patriotique de l'œuvre de Chopin en disant une phrase magnifique. Schumann dit que la musique de Chopin, ce sont des canons cachés sous des fleurs. C'est parfaitement vrai. Et vous allez écouter l'étude Opus 10, numéro 12. On ne saurait mieux faire que d'écouter l'étude qui a été qualifiée de révolutionnaire. Thank you.
vient d'exprimer la dualité de caractère de Frédéric Chopin, à la fois passionné, vous venez d'entendre cette étude révolutionnaire qui est très animée, qui est presque furieuse, et puis en même temps mélancolique avec les nocturnes telles que nous avons pu en écouter dans la précédente émission. Un très très grand pianiste d'origine polonaise aussi, Arthur Rubinstein, qui a beaucoup joué Chopin. Il était d'origine polonaise, il a traversé le XXe siècle puisqu'il est né en 1887 et décédé en 1982. Donc il a parcouru tout le siècle. A quelque part beaucoup joué Chopin et beaucoup parlé de lui. Et notamment, il a transfiguré un peu, ça, il a participé à la transfiguration de sa musique. Chopin avait une image de mélancolique, un peu mou. Et Rubinstein a vraiment voulu montrer que ce n'était pas le cas, que c'était un caractère passionné et qu'il n'y avait pas lieu de réserver Chopin aux jeunes filles qui passent... qui font des cours de piano, qui faisaient, maintenant c'est différent, mais on peut dire au début du XXe siècle que tel était le cas. Toutes les jeunes filles de bonne famille jouaient du piano et avaient l'image d'un Chopin mélancolique. Eh bien, Rubinstein l'a réanimé. Il a déclaré d'ailleurs aussi que Chopin était vraiment quelqu'un de passionné, de fougueux, et en même temps qu'il parlait au cœur des gens, l'un n'excluant pas l'autre. Nous allons maintenant écouter un prélude qui est en opposition avec la révolutionnaire, l'étude que vous venez d'écouter. Encore que vous verrez qu'à la fin, tout cela s'anime avec beaucoup de violence. Elle sera jouée par... Cortot, Alfred Cortot, grand pianiste français qui a beaucoup joué Chopin, il a tout joué. Donc il s'agit du prélude opus 28 numéro 4.
Il est impossible d'évoquer la vie de Chopin sans parler de la liaison qui a duré 9 ans, de 1838 à 1847, avec George Sand, célèbre écrivaine. Ces deux personnes se rencontrent alors qu'ils ont chacun souffert en amour. George Sand... de Michel de Bourges, et puis Chopin qui s'était amouraché de Marie Wodzinska. Cette liaison, au dire de George Sand, va rester purement platonique, mais George Sand mesure sans doute le génie de Chopin, sa grande force d'âme, mais sa grande faiblesse physique. puisque Chopin était tuberculeux, il en mourra, il fait 40 kilos, il est souffreteux. Elle lui écrira d'ailleurs parfois, lorsqu'ils seront séparés, mais resteront amis, « Mon cher malade, mon petit souffreteux », et même, elle lui écrira « Mon cher cadavre ». En tout cas, c'est un amour maternel, de protection. Georges Sand parle de son devoir vis-à-vis de Chopin et l'introduit, bien sûr, dans les salons parisiens où il est adoré de tout le monde, tant son esprit est fin et délicat, son expression choisie, ses bonnes manières. Et puis, ils vivront aussi quelques années, pour les vacances, à Nohant, lieu d'un célèbre festival actuel, Nohant, Paris, où Chopin composera des œuvres et où même Georges Sand se mettra elle-même en cuisine pour soigner son cher amour. Nous allons revenir au Chopin héroïque, c'est le cas de le dire, révolutionnaire, patriote, avec l'une de ses œuvres les plus connues. C'est, elle porte bien son nom, la sixième polonaise opus 53, surnommée la polonaise héroïque. Thank you.
Nous étions en Pologne. Eh bien, restons en Pologne et nous allons écouter une mazurka. Nous avons, dans la première émission, écouté des valses de Chopin qui vraiment sont très caractéristiques et vraiment spécifiques à l'écriture de Chopin. Eh bien, les mazurkas, c'est aussi la même chose. Qu'est-ce qu'une mazurka ? C'est une danse polonaise qui a comme particularité d'être une danse à trois temps. Et pour ceux qui pratiquent un petit peu la musique, vous savez que lorsqu'on écrit de la musique, on décompose en mesures. Une mesure de mazurka a donc trois temps. Et répéter quatre fois, c'est important, parce que c'est une séquence de quatre mesures qui correspondent à une figure de la danse. Puis on passe à quatre autres mesures et on fait une autre figure de la danse. Donc on a quatre fois trois temps successivement et chaque fois c'est une figure de danse. Alors nous allons écouter une mazurka qui, j'ai un peu de mal, c'est un peu comme la valse de Ravel, j'ai un peu de mal à l'imaginer danser parce que nous avons choisi par contraste avec la polonaise, qui, vous l'avez entendu, était très vigoureuse, une mazurka, elle, plutôt mélancolique, empreinte de sentiments et qui vient faire contraste. Écoutons cette mazurka. Thank you.
après cette mazurka douloureuse, plaintive, au sujet des plaintes exprimées, de la douleur exprimée dans la musique de Chopin, Liszt disait que ces plaintes dégageaient une poésie mystérieuse sans pareil. Nous allons aborder, l'un des grands chevaux de bataille du piano au travers des études. Les études existent depuis que le piano et avant lui le clavecin existent. 10 doigts sur un clavier, il y a des doigts faibles, il y a des doigts forts, trop faibles. Tous les exercices et tous les musiciens ont composé des études pour, évidemment, donner de la force identique à chaque doigt et ce qu'on appelle l'égalité des doigts quand on joue du piano. Beaucoup d'études sont rébarbatives, même si elles sont utiles. Les compositeurs romantiques, dont Chopin, vont en faire des pièces vraiment expressives, au-delà de la pure technique qu'il convient de forger pour le pianiste. Chopin va donner à ses études, 24 études, plus quelques études posthumes, une dimension poétique et une dimension héroïque quasiment sans pareil dans l'histoire de la musique. Il n'est plus question de mécanique digitale et de pure technique. La technique est transcendée par l'expression, par la poésie, par le sentiment. Et nous allons maintenant écouter une étude qui est l'étude opus 25, numéro 11. Vous allez mesurer qu'après une sorte de chorale introductif, on assiste à un déferlement sonore. Sans pareil, on retrouve quelque part l'héroïsme parce que de cette musique se dégage de l'héroïsme, de la volonté combattante, de la grande tension que peut mettre Chopin dans ses œuvres. Étude opus 25, numéro 11, déferlement de passion. Thank you. Après la 11e étude de l'opus 25, nous allons écouter la 12e de ce même opus 25. C'est une bourrasque de musique qui emporte tout sur son passage, qui exprime autant de douleur que de révolte et d'exaltation. C'est une œuvre, pour moi, de l'île déserte.
Changeant de domaine après cette bourrasque pour découvrir les impromptus. Impromptu, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire quelque chose qui est spontané, qui n'est pas préparé. En musique, donc, ce sont des œuvres qui ont, je dirais, une tendance à être présentées comme des improvisations. En fait, c'est impromptu, ça n'est pas quelque chose de savamment construit, il faut que ça soit spontané et quasi improvisé. Les trois grands compositeurs qui ont illustré ce genre sont Schubert, nous l'avons écouté lors d'une émission, puis Chopin et enfin Gabriel Fauré au XXe siècle. Écoutons la fantaisie impromptue.
Thank you.
Autres grandes œuvres de Chopin, les trois sonates pour piano qu'il a composées. Plus jeune, il avait composé une sonate pour piano et violoncelle qui est assez peu jouée. Ça n'est pas une œuvre magnifique pour le violoncelle, bien qu'elle soit gracieuse. Car Chopin, répétons-le, c'est le piano. Rien que le piano est toujours le piano. Trois sonates. La première est une œuvre de jeunesse. Les deux autres, la deuxième et la troisième, sont des œuvres de grande dimension, de grande poésie, de grande expression musicale sur le schéma, en général classique, de la sonate classique, trois mouvements, voire quatre, un scherzo qui s'intercale. Et nous allons écouter un passage de sa deuxième sonate, celui dont nous avions parlé un peu dans la première émission, pour dire que, par ironie de l'histoire, ce morceau pour piano, qui a ensuite été orchestré par les uns et les autres, a régulièrement servi à enterrer les grands dictateurs soviétiques. Et voilà. C'est la marche funèbre de la deuxième sonate, joué par un grand pianiste français, Yves Nat, avec une reprise tonitruante. Un premier mouvement dans ce mouvement, une partie centrale élégiaque, et puis une reprise de la marche funèbre proprement dite, avec un fortissimo qui n'est pas écrit par Chopin, mais qui est saisissant sous la main d'Yves Nat. Donc, sonate funèbre, deuxième mouvement. Thank you.
Chopin appréciait beaucoup les formes musicales que l'on pourrait qualifier de libres. Il a écrit, nous l'avons vu, des ballades, des scherzos, des valses, des mazurkas, des polonaises. Ça n'est pas une forme structurée, c'est un genre musical, c'est une aventure poétique. Il a écrit 24 préludes qu'il a composés en 1938-39 pendant l'hiver à Majorque, où il a séjourné avec Georges Sand, qui par ailleurs écrira un livre, Un hiver à Majorque, pour évoquer ses souvenirs. Ces préludes sont des œuvres qui sont tout à fait particulières, un genre musical, parce que si l'on regarde ce que veut dire prélude, ça veut dire qu'il vient avant. Bien. Donc il y a des préludes en musique, quelquefois un prélude avant un opéra, donc avant une véritable histoire. Après, Bach a écrit des préludes et fugues. Alors, comment faut-il le comprendre? C'est en deux morceaux, un prélude et une fugue. Donc prélude veut dire avant la fugue. Mais finalement, le prélude est devenu un genre à part, une pièce en général assez courte et qui devient une pièce poétique tout à fait particulière, et c'est le cas de Chopin. Nous allons écouter, et en repensant à Majorque où malheureusement Chopin est tombé malade, il était souffrant de toute façon assez régulièrement, et en l'occurrence là a été décelé la tuberculose, donc il était effectivement porteur d'une maladie qui va l'emporter. Et par malchance, il ne faisait pas beau à Majorque. Hein, puis c'était en hiver, et c'est comme partout, mais il peut pleuvoir, il fait froid. Donc ils auront eu deux lieux pour séjourner, où finalement Chopin a eu froid. Et il a écrit, parmi ses préludes, le 15e, que l'on a surnommé le prélude à la goutte d'eau, car vous verrez, il y a sans arrêt une note répétée tout au long de ce prélude. Écoutons le prélude opus 25, numéro 15.
Chopin s'éteint le 17 octobre 1849, emporté par la tuberculose. Liszt dira que Chopin est passé parmi nous comme un fantôme. Chopin repose au cimetière du Père-Lachaise, à l'exception de son cœur qui est encastré dans un pilier de l'église Saint-Croix de Varsovie. Écoutons pour terminer une étude, celle de l'étude numéro 1 de l'opus 25, dont Schumann disait qu'il la comparait à une harpe éolienne.
Nous avons écouté nombre de pianistes au cours de cette émission. Sviatoslav Richter dans la 12e étude opus 10, Alfred Cortot dans le 4e prélude, puis Arthur Rubinstein dans la 6e polonaise héroïque, puis la mazurka opus 17 numéro 4, Grigori Sokolov particulièrement emporté dans l'étude opus 25 numéro 11, suivi de Georgi Xifra qui lui accélère lorsque ça devient plus difficile dans l'étude 12 opus 25, plus calmement et plus élégiaque la fantaisie impromptue par Vladimir Horowitz, la sonate le mouvement funèbre joué par Ivnat. Ensuite, Maria Joao Pires dans le merveilleux prélude dit à la goutte d'eau, le 15e prélude. Et enfin, Daniel Barenboim dans l'étude opus 25 numéro 1. Notre prochaine émission sera consacrée à deux grands musiciens pour le cinéma, en l'occurrence Gabriel Yared et Éric de Marsan. À bientôt, passez un bon mois de rentrée.
Au revoir.